Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien.
Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Ni Dieu ni Maître, émission durant laquelle j'aimerais partir d'un fait social pour arriver à la valeur qu'est parvenir à soi-même. Je voudrais ainsi partir d'un article de journal très récent dans lequel se confrontent deux visions actuelles, deux auteurs italiens au sujet du mode de vie adopté par la génération contemporaine par rapport notamment à Internet. Le premier regard est celui de Alessandro Baricco, qui expose, je cite, la thèse selon laquelle le monde contemporain est marqué par l'irruption d'une espèce nouvelle de mutants, ce qu'il est convenu d'appeler la génération Internet. Ces barbares, tels que les décrit Baricco et qu'il encense, respirent avec les branchies de Google, vivent dans une société sans repères et changent sans arrêt. Dans son analyse, qui fait écho au concept de société liquide du sociologue Zygmunt Bauman, Baricco va jusqu'à y voir l'émergence d'une nouvelle civilisation. Fin de citation. Cette nouvelle civilisation serait composée de barbares que Baricco place sur un piédestal. Individus qui voyagent vite en s'arrêtant peu, écoutent des fragments et jamais le tout, qui écrivent sur des téléphones, qui ne se marient pas pour toujours, regardent des films sans entrer dans les cinémas, qui écoutent des lectures en ligne au lieu de lire des livres, et toute cette façon d'être sans racines et sans poids génère encore une vie qui doit apparaître extrêmement belle et sensée, où la surface est tout et le sens écrit en elle. Baricco, ainsi, démontre la profondeur de la connaissance au profit de la superficialité sur laquelle il place le sens même de la vie. Le deuxième regard est celui de Eugenio Scalfari, qui répond à Baricco qu'il ne décrit pas les barbares, ces nouveaux barbares qui ont, je cite, à jeter les bases de l'époque nouvelle, du nouveau langage artistique qui lui donnera son empreinte, des nouvelles significations qui justifieront ses institutions. Mais au contraire, il décrit les barbarisés. Les barbarisés parlent encore notre langage, mais ils le défigurent. Ils utilisent encore nos institutions, mais ils les corrompent. Ils ne souhaitent pas le moins du monde préserver la planète de la guerre, du consumérisme, de la pollution et de la pauvreté. Mais ils veulent au contraire affirmer des privilèges, des coteries, des intérêts particuliers, des pouvoirs corporatistes, des dilapidations de ressources et des inégalités intolérables. Les barbares, ceux que nous voyons toi et moi, lui dit-il, comme une réalité imminente, sont encore à la recherche de l'avenir. Les barbarisés, eux, sont en train de dévaster le présent. Fin de citation. Ainsi donc, Scalfari répond à Baricco que la génération Internet n'est pas la génération des nouveaux barbares qui fonderont la nouvelle civilisation. Mais au contraire, c'est une génération d'individus barbarisés qui dévore le présent et ruine l'avenir.
Corvette I like to eject, and all the other boys who pulled a silent dance in the woods. In the silver light that shone, another can of Coca-Cola. Don't you ever call me mom. Freckled dancing in the twilight, hair so thin I wear a ton. As far as you can see, it's fun. Nothing but a history. Second year and then you're gone. Quicksand, quicksand all around. Turn the corner just beyond. The shadows move and change the grain. But something tells me not to bring. Turn and run, that's a show. You're walking through my heart once more. Don't forget to close the door. I'm not certain what you found. All remember the charm before. Like a crown of fortune. Sunny skies and angels, please. Floating down upon my knees. Just as dry. The wind is busy, blowing dizzy. Your dreams were shot like a star. Exploding in a mind somewhere. Doing something on a dare. Pulling the trigger like breathing air. A sun-kissed boy that gave no thought to what he made while others say. Ocean spray, the candle set. It's dripping in my hand, you're dead. Little brother, remind me. Moments tick forever true. You can see as far as sin. Don't you know the shape I'm in? You're walking through my heart once more. Don't forget to close the door.
Vous êtes toujours sur CFM à l'écoute de Ni Dieu Ni Maître, où il s'agit de parler de la valeur parvenir à soi-même à partir d'une réflexion sur Internet. On peut dire qu'il y a deux facettes à la réalité d'Internet. Une facette qui concerne les puissants, les maîtres de notre monde, et une facette qui concerne les esclaves ou les gens du commun. En effet, contrairement à ce qu'a pu dire Al Gore en 1994 à Buenos Aires, lors d'une conférence de l'Union internationale des télécommunications, je cite « La Global Information Infrastructure, GII, va offrir une communication instantanée à la grande famille humaine. J'y vois un nouvel âge athénien de la démocratie qui se forgera dans les forums » que la GII créera. Fin de citation. Le Global Information Infrastructure se veut être de super autoroutes de l'information ou un réseau de réseaux. Contrairement donc à cela, les choses ne sont pas aussi idylliques. Car, et là je cite Armand Matelard, professeur d'université en sciences de l'information et de la communication. Car donc, avec la privatisation et la déréglementation des systèmes de communication, et avec le démantèlement des monopoles de télécommunication, les éternelles promesses faites par la puissance publique sur les bénéfices sociaux de la révolution technologique ont vite révélé leurs contradictions. L'État-providence, sur le plan national et international, a été débordé par les logiques marchandes. Les acteurs de la géopolitique ont passé le relais aux protagonistes de la géoéconomie. La démocratie promise tend à se confondre avec l'avènement de la Global Democratic Marketplace ou Société économique globale. Fin de citation. En réaction, il y a eu des mouvements sociaux de protestation opposés à l'ultralibéralisme. Et le déploiement de ceux-ci a eu des effets sur la doctrine stratégique concernant Internet. Et ainsi apparut la Net War, ou guerre de réseau, qui s'applique aux nouvelles formes de conflits de faible intensité menées par l'ensemble multiforme des acteurs non étatiques, qui court-circuitent les hiérarchies gouvernementales par le biais de réseaux. Ces acteurs non étatiques sont, entre autres, les mouvements activistes ou participatifs, les terroristes, les cartels de la drogue ou les mouvements de guérilla. La Net War a sa contrepartie qui est la Cyber War. Toutes deux forment la New Politique, ou la nouvelle guerre globale des technologies de l'intelligence. Celle-ci façonnera les conflits futurs du XXIe siècle et aiguillonnera l'innovation technique en matière de télésurveillance planétaire. C'est ce qu'a mis en lumière, en 1998, les révélations d'un système d'écoute des communications électroniques dans le monde. C'est la face cachée des enjeux géopolitiques de la conquête de la Global Information Dominance, expression consacrée pour exprimer la position stratégique dévolue à la nouvelle ressource immatérielle qu'est Internet dans le redéploiement de l'ordre mondial. Ainsi, l'internaute, qui, à son niveau, est scotché devant son écran d'ordinateur ou sur son téléphone portable, en passant des heures à voguer sur le web, sur cette toile d'araignée comme on se pique à l'héroïne, contribue au déploiement d'un réseau de télésurveillance planétaire qui n'a d'autre but que militaire et financier. Et en adoptant Internet, non pas comme un simple moyen de communication, d'information et de loisirs, mais en l'adoptant comme un mode de vie, et pire, comme un mode d'être, l'internaute ne devient plus qu'un code d'accès virtuel, se laissant éterrifier et entraîner dans les dédales de la dépersonnalisation et le gouffre de la déréalisation. C'est-à-dire que cet individu lambda se laisse entraîner à perdre le sentiment de réalité de soi comme des choses et à ne plus se sentir que comme une ombre dans un monde d'apparence peuplé de fantômes. Ceci peut se faire parce que le monde Internet est un monde tissé en réseau dont la réalité est virtuelle. Sachant que virtuel n'est pas le contraire de réel, mais le contraire d'actuel ou d'effectif ou de concret. Et l'on pourrait d'ailleurs faire le parallèle avec une idée traditionnelle, qu'est de séparer la réalité en deux. D'un côté, le monde terrestre, et de l'autre, le monde soi-disant véritable, comme l'a fait par exemple Platon en plaçant ce qu'il nommait le monde des idées en tant que monde vrai, et ce au détriment du monde des phénomènes, ou monde sensible, corporel et concret. C'est également ce que fait la tradition religieuse, depuis l'hindouisme jusqu'au christianisme, en hiérarchisant, en gros, un au-delà et un ici-bas. C'est ainsi que le monde numérique pourrait devenir, à mesure, le monde considéré comme vrai. Autrement dit, c'est ainsi que le virtuel deviendrait l'actuel et l'abstrait le concret. En somme, il s'opérerait une inversion des choses naturelles, une sorte de nouvelle perversion du regard porté sur ce qu'est le réel, et ce, au profit de quelques sommités de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale, qui utiliseraient selon leurs propres intérêts ces internautes exsangues d'eux-mêmes, ces fantômes errant sur la toile du réseau en ligne. Le monde virtuel Internet apparaît bien être une retranscription, une transposition contemporaine du monde des idées de Platon ou du monde divin des religions de toutes sortes, ou encore plus proche de nous, de la société abstraite de l'État souverain. Voilà donc comment ce qui pourra être le meilleur moyen de s'ouvrir à autrui et à l'ensemble du monde se fait en réalité le pire moyen de se fermer à la réalité et à soi-même, en se noyant dans un système en réseau au creux duquel la perdition de chacun des internautes fait le bonheur des hauts dignitaires des hautes sphères de notre monde. Vous êtes toujours sur CFM dans l'émission Ni Dieu ni Maître, où l'on va maintenant aborder la valeur qu'est parvenir à soi-même. Au cours des deux dernières émissions, il a été dit que la valeur fondamentale à l'épanouissement humain, qu'est, à mon sens, vouloir être libre de se choisir, de se créer soi-même, appelle la valeur être à soi-même ou vivre en s'appartenant pleinement, et non pas vivre sous la coupe hégémonique d'un État, d'un Dieu, ou comme c'est le cas actuellement, sous la coupe de l'entité toute puissante qu'est le pouvoir de l'argent pour l'argent, ou autrement dit, le tout puissant marché. Vouloir être libre, de se choisir et de se créer, appelle le fait de vivre en s'appartenant pleinement, pour enfin parvenir à soi-même, c'est-à-dire parvenir à son identité propre et authentique, et ce, en la découvrant, en la défaisant de ses noms fallacieux et mensongers, imposés arbitrairement par un système de valeurs séculaires qui conditionne illégitimement le tissage de l'être de la psyché. Conditionnement qui se fait au moyen des fils de l'oubli destructeur de soi, au travers de l'éducation traditionnelle, de l'idée de devoir impératif et impérieux, comme au travers de l'inculcation des vieilles valeurs qui ne poussent qu'au reniement de l'originalité de l'individu et de son unicité personnelle, et ce, au profit de la masse absorbante et liquéfiante de la société étatique. Parvenir à soi-même, c'est donc rechercher et découvrir son propre nom authentique et véritable. Véritable dans la vue selon laquelle la vérité est de l'ordre du particulier et du singulier, et non pas de l'ordre de l'universel, de l'impersonnel. C'est donc chercher à découvrir son nom proprement sien, un nom qui soit noué et lié intimement à la réalité de chacun, à l'essence de la personne, suivant ce qu'est le tréfonds de sa personnalité dans sa manifestation et son expression. Et ceci, au centre même, au creux du chemin qui mène de la conscience de soi à la conscience à soi-même. Ce nom, qui se trouve là, au carrefour, au pont, rassemblant les éléments de l'esprit en une unité mentale complète, tel le dehors et le dedans, se pénétrant l'un et l'autre, tel les battants du vide et du plein, s'ouvrant l'un sur l'autre, ou tel le je et le tu, dans ce qu'est être en présence à l'altérité d'autrui. Parvenir à soi-même implique un perpétuel dépassement de soi vers la porte de son horizon insaisissable, en un élan d'ouverture à l'autre, au miroir duquel se saisit le reflet de son identité propre, reflet qui permet à chacun, alors, le long d'un travail intérieur, de saisir son nom reflété au cœur du partage de l'un et l'autre. Ce rassemblement d'éléments divers et disparates, en une unité mentale complète, peut être vu comme la compréhension de la parole de ses entrailles profondes et sa mise en langage ordonné et rationnel, selon ce qu'est une raison éclairée par la sympathie et l'empathie, ou autrement dit l'amitié. Ce rassemblement peut être également vu comme le premier pas fondamental au fait de donner un sens voulu et choisi par soi-même au chaos ténébreux du monde intérieur, là et quand se rencontrent et se rejoignent le voyageur et son ombre, pour reprendre l'expression nietzschéenne. C'est ainsi que parvenir à soi-même implique d'être en présence à autrui et de l'ouvrir sa porte, puisque nous n'existons pleinement et nous ne sommes que par et pour autrui, c'est-à-dire dans la rencontre, selon un mouvement d'affirmation créationnelle de soi. Affirmation à l'intérieur de laquelle chacun se crée le long du cheminement où se tisse la toile de l'esprit par son intrication dans le tissu de l'ensemble collectif, et ce, au travers de la création de qui veut être le « je », au travers de la création de son propre monde ou réalité propre. Quand ainsi donc, on peut dire que se plante d'autrui les lendemains où naissent les fruits profus de l'existence terrestre, les fruits luxuriants du vivre vivant humain. Mais bien sûr, parvenir à soi-même n'est jamais un acquis définitif et fixe. Au contraire, c'est une perpétuelle reconquête, une perpétuelle victoire sur le néant intérieur à gagner, un jaillissement hors de ses eaux à recommencer sans cesse, un arrachement et une élévation depuis son fond obscur à renouveler perpétuellement, et ce, dans un flux de centration en soi-même, au creux duquel résonne l'acte même d'être soi-même. C'est à l'intérieur de ce processus de perpétuelle émergence transformationnelle que se saisit et se dessaisit le soi en un seul et même temps, et que se fixe l'identité dans son impermanence. C'est donc là où chacun se positionne à son propre carrefour, à son propre pont, que peut se corder l'esprit en une unité mentale complète, et que peut se révéler à soi-même son nom authentique et véritable, son nom proprement sien, telle une identité totémique au moment auquel est réellement conquise la montagne intérieure au sommet de laquelle se centrent inlassablement les abysses lourdes et insondables que chacun porte en soi. Au moment où est donc réellement conquise cette montagne dont le sommet parvient à percer de sa pointe les airs frais et légers du ciel de sa sphère proprement sienne. Et l'on peut dire que ce chemin est celui de l'éclosion de sa conscience à soi-même. Vous êtes toujours sur CFM dans l'émission Ni Dieu ni Maître, où je poursuis sur la valeur qu'est parvenir à soi-même. On peut représenter cette valeur en utilisant des références symboliques par l'image suivante. Une espèce de faucon aux yeux de serpent. Parce que le faucon, en Égypte ancienne, symbolisait le principe céleste, incarnant entre autres divinités Horus, dieu des espaces aériens, dont les deux yeux étaient le soleil et la lune. Le faucon, dont le type symbolique est toujours solaire, uranien et diurne, est un symbole ascensionnel sur tous les plans, physique, mental et intellectuel. Quant aux yeux ou à l'œil, il est le symbole de la perception intellective. Dans la Bhagavad Gita ou dans les Upanishads hindous, les deux yeux sont identifiés aux deux luminaires, le soleil et la lune. Traditionnellement, l'œil droit est lié au soleil et correspond à l'activité et au futur. L'œil gauche est lié à la lune et correspond à la passivité et au passé. La résolution de cette dualité fait passer de la perception distinctive à la perception unitive, à la vision synthétique. L'ouverture des yeux est aussi un rite d'ouverture à la connaissance. Et parce que le serpent peut représenter l'aspect mâle de l'existence, avec sa rapidité à sortir d'une bouche d'ombre, d'une crevasse ou d'une faille pour cracher ou bien la vie ou bien la mort, il peut également représenter l'aspect femelle. Et là, le serpent se love, embrasse, étreint, étouffe et déglutit et dort. Ce serpent femelle habite les couches profondes de la terre et ici, les couches profondes de la conscience. Le serpent n'est pas un archétype, mais un complexe archétypal, lié à la froide, gluante et souterraine nuit des origines. Le serpent forme une indémembrable chose primordiale, qui ne cesse de se détortiller, de disparaître et de renaître. Cette chose primordiale est la vie dans sa latence, ou, comme dit Kaeserling, la couche de vie la plus profonde. Ainsi donc, l'image d'un faucon aux yeux de serpent semble bien représenter la dimension temporo-spatiale de l'union des forces ascensionnelles de l'esprit au complexe archétypal des couches profondes de la conscience dans leur saisie intellectuelle réciproque. Ou autrement dit, cette image semble bien représenter la valeur qu'est parvenir à soi-même.
On her finger she wore. It was where everyone could see. It belonged to someone, but not me. On her hand she wore a plain gold.
Vous êtes toujours sur CFM dans l'émission Ni Dieu ni Maître, où je vais conclure sur la valeur qu'est parvenir à soi-même par rapport au point de départ qui est à la génération Internet. Vouloir être libre, de se choisir et de se créer dans un monde où chacun puisse vivre en s'appartenant pleinement, afin de parvenir à soi-même, ceci n'est possible que si l'individu et l'ensemble collectif auquel il se rattache refuse catégoriquement l'aliénation religieuse du divin et l'aliénation politique du système étatique. L'anarchisme, et en particulier l'anarchisme fédéraliste, apparaît alors comme la recherche perpétuellement renouvelée d'un équilibre entre des groupements distincts. Il implique un rejet absolu de toute forme de gouvernement à tendance globalisante. L'éthique anarchiste développe le sens de la responsabilité individuelle. Et c'est parce que l'émancipation personnelle ne peut résulter que d'un travail de perfectionnement intérieur que l'anarchisme attache un tel prix à la culture de soi-même. Et c'est pourquoi il faut le regarder comme une tentative de sortir de la sclérose actuelle ou de sortir, comme le dit Henri Arvon, professeur émérite à l'Université de Paris 10, sortir de l'oppression subie et de la dépersonnalisation acceptée, de ce risque de dépossession, entendu ici de soi-même, perpétuellement présent, du fait que nous sommes condamnés à nous objectiver et par là même à créer des forces qui aussitôt se retournent contre nous. Fin de citation. Pour conclure, on peut penser que la génération Internet est appelée à se détourner d'elle-même et de la réalité du monde concret pour mieux plonger dans un système dépersonnalisant, virtuel et vidé de toute substance et de toute concrétude. Système qui noie, absorbe et digère l'intégrité fondamentale de la personnalité humaine. Voilà, c'est donc fini pour cette émission. Je vous salue et vous souhaite ni Dieu ni maître.
Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien.